Alors, je vais donner maintenant la parole à Patrick Barillot, qui est psychanalyste à Paris et à Lyon, et qui va donc qui a intitulé son texte « Y a-t-il un au-delà transférentiel à la face ?» Voilà, à toi Patrick.
Oui, alors à mon tour de remercier les organisateurs de ce séminaire école de la Nôtre qui nous propose une formule nouvelle et donc qui nous a sollicité pour parler sur le, ce soir sur le thème du transfert après la passe. Donc là j'avoue que j'ai été surpris par la question pensant qu'il n'y avait pas lieu d'en faire un questionnement. Ça a été ma première réaction. Bon. Cependant, la question étant posée, je me suis dit qu'il fallait la penser et j'ai choisi de le faire dans l'axe de l'articulation du transfert au savoir. Alors, quelques définitions préambules pour poser les termes de la problématique. Le transfert, nous le définissons comme de l'amour s'adressant au savoir. C'est de répéter, plus spécialement au sujet supposé savoir, suivant cela les définitions que Lacan donne dans de multiples. Quant à la passe, on la situe dans ce moment de chute du sujet supposé savoir, où l'autre, d'avoir chuté, est réduit à petit a. Autrement dit, l'analyse de partenaire supposé savoir, comme le dit Lacan à sa proposition 67, s'évanouit de n'être plus que savoir vain d'un être qui se dérobe. Fin du transfert, et pas fin de l'analyse qui se poursuit tant que dure le deuil de cet objet. Alors, si dans ce moment de passe, l'analysant en a fini avec la fonction de sujet supposé au savoir qu'occupe son analyste, il n'en a pas fini pour autant avec son rapport au savoir. Bien au contraire, puisque s'ouvre pour lui la possibilité d'un autre rapport au savoir. Je m'explique. Quand on dit « amour de transfert », on s'imagine que l'analysant est animé d'un désir de savoir. Sur ce point, Lacan, dans sa première leçon d'encore, douche toute velléité de penser ainsi la chose, c'est-à-dire de croire en l'existence d'un désir de savoir. S'adressant à son auditoire et en particulier à ses analysants, il leur dit qu'ils sont animés d'un « je n'en veux rien savoir ». Après un petit développement, il finit par conclure que ce sera seulement quand ce « je n'en veux rien savoir » paraîtra suffisant à ceux de ses analysants qu'ils pourront se détacher de leur analyse. Alors là, j'ouvre une parenthèse sur la transcription. Parce que ça, c'est la transcription sur laquelle nous travaillons, la transcription du seuil. Mais dans d'autres transcriptions, ce n'est pas de l'analyse qu'on se détache, mais de l'analyste. Et si on écoute ce que j'ai fait, avec attention, l'audio, on entend plus analyste qu'analyse, même si ce n'est pas sûr à 100%. Pour tendre l'oreille. Bon. Alors, peut-être trouverez-vous que c'est du pinaillage. Alors, il me paraît d'ailleurs toujours que c'est pas indifférent. Que ce soit analyste, il me semble, est en cohérence avec l'idée que l'on puisse bien se détacher de l'analyste comme sujet supposé savoir, mais ne pas en avoir fini avec l'analyse tant que l'analyse continue à agir comme objet cause. Et l'autre point qui me semble important dans la version seuil, c'est que ça entretient la confusion entre le moment de passe et la fin de l'analyse. Donc là, je ferme la parenthèse. Alors, question, qu'est-ce qu'un « je n'en veux rien savoir » suffisant comme caractéristique d'une séparation d'avec, en prenant l'option, son analyste ? Son analyse comme sujet supposé savoir, et donc de la passe. Tout analysant qui s'adresse à un analyste est dans cette position d'attente d'une interprétation révélatrice qui suppose un « je voudrais savoir ». C'est un appel au savoir, pour répondre aux questions du sujet, en particulier les questions qui portent sur son être. Que suis-je ? Pour Lacan, il ne s'agit pas là d'un désir de savoir, mais d'un désir du savoir. Du savoir en tant que l'inconscient et du savoir fait de signifiant qui se déchiffre. Donc dans cette leçon de Lacan, Lacan identifie le désir du savoir avec un « je n'en veux rien savoir ». La question est pourquoi et comment le désir du savoir peut-il se traduire en un « je n'en veux rien savoir ». Quelle différence entre le désir du savoir et désir de savoir ? Là, il semble que Lacan joue du génitif-subjectif, la balance entre génitif-subjectif et génitif-objectif. Désir du savoir, génitif-objectif, c'est-à-dire on veut le savoir en tant que substantif. Et désir de savoir, génitif-subjectif, on veut savoir. L'analysant donc une demande du savoir qui dissimule un « je n'en veux rien savoir ». Finalement, le moment de base met à jour ce « je n'en voulais rien savoir ». Alors, comment ? C'est dans la mesure où l'analysant le dépasse, ce « je n'en voulais rien savoir », par la traversée du fantasme. Ce que met à jour cette traversée, et que je ne voulais pas savoir, c'est qu'il n'y a pas de mots pour dire l'objet petit a que je suis, ce petit a comme moi, cause du désir. Cet au-delà du fantasme permet aussi, en plus de cet aperçu qu'il n'y a pas de mots pour dire, la rencontre du sujet avec l'objet de son fantasme, le petit a comme plus de jouir. Comme il le dit dans le séminaire 11, cette rencontre avec la saloperie qui peut le supporter. Petit a comme saloperie, mode de jouir singulier, différence absolue impliquée dans les choses de l'amour. Comme c'est dit dans le séminaire 11, comme ça a été dit tout à l'heure déjà. Toujours dans cette veine du « je n'en veux rien savoir », en octobre 73, dans sa préface à l'édition « Avant des écrits », Lacan insiste à dire que le transfert, c'est de l'amour qui s'adresse au savoir et que ce n'est pas du désir. Pas de vis-trib, pas de pulsion de savoir, de désir, il n'y en a pas le moindre. Thèse réaffirmée un an plus tard, en 1974, dans sa lettre aux Italiens, lorsqu'il dit que l'humanité ne désire pas le savoir. L'humanité ne veut rien savoir et elle baigne dans le bonheur. Elle veut croire. L'humanité veut croire à beaucoup de choses, spécialement au lendemain qui chante, mais ce qu'il pointe dans ce texte, c'est surtout qu'elle croit à la possibilité d'écrire le rapport de jouissance entre les sexes. C'est les purs, d'où découlent cette croyance, un bon nombre de choses, dont l'impossibilité de faire deux, et son fameux « il y a de l'un » et « il y a de l'un tout seul ». Donc, pas de désir de savoir, mais seulement une horreur de savoir pour le doublement. Et il ajoute qu'il n'y a d'analyste qu'à ce que ce désir de savoir lui vienne, soit que déjà par là, il soit le rebut de l'humanité. C'est ce qui lui permet, à Lacan, de parler d'un désir inédit qui n'existait pas avant que la psychanalyse n'apparaisse. C'est là une façon de caractériser le désir de l'analyste. Ce n'est pas un désir pour l'analyse. Souvent, c'est ce qu'on peut entendre dans les cartels de la Paz, où on n'entend pas le désir pour l'analyse, ou bien on n'entend pas le désir de l'analyste. Ici, ce qu'il nous indique, c'est un désir nouveau, dans l'ordre de l'humanité, d'un savoir sur l'impossible du rapport sexuel, et sa caractéristique, à ce savoir, et qu'il faut toujours le démontrer. Car c'est un réel et pas une vérité. un réel comme un impossible logique lié à la structure du langage. Et pour parvenir à ce désir nouveau, il faut avoir analysé sa propre voie de savoir, son « je cite, je n'en veux rien savoir », avoir cerné la cause de son horreur de sa propre à lui, détaché de celle de tous, horreur de savoir. C'est toujours ça, dans la lettre aux Italiens. C'est-à-dire qu'il faut c'est une façon de dire qu'il faut sortir des butées qui habitent la recherche du savoir, sortir de l'analyse infinie dont Freud n'était pas sorti, sortir du déchiffrage sans fin, en visant les points où il n'y a pas de signifiant, les failles du savoir. L'analyste est dit rebut de l'humanité. Il est dit rebut de l'humanité en ce sens qu'il ne participe pas à ses croyances et à ses illusions, tout spécialement sur la question de l'amour, illusions qui font fi de la castration et du malaise qu'elle engendre. Et c'est justement cette place de rebut que l'analyste, par quelque côté de ses aventures, dit-il, doit porter la marque. Par quelque côté de ses aventures, il doit porter la marque. Et quand il ajoute que c'est à ses congénères de savoir la trouver, cette marque, il nous indique là ce qu'il s'agit de repérer dans la passe. Alors je me suis interrogé sur cette façon pas très habituelle chez lui de renvoyer aux aventures du sujet, même si je pense que ça a déjà existé auparavant. Bon. Mais en tout cas, c'est une façon, il me semble, de mettre l'accent sur les actes et réalisations du sujet dans sa vie. À la fois comme analyste, à soutenir un désir de savoir, mais aussi, disons, dans l'usage qu'il a appris à faire de l'objet 1. Et là, c'est dans le registre de l'amour et plus généralement du lien social que nous nous situons. C'est certainement comme ça que l'on peut parvenir à un amour un peu plus digne que celui du discours courant, parce que l'on sait que derrière les belles paroles se loge l'objet petit a de notre fantasme, pas très réhabilitant à l'occasion, la saloperie comme on disait, et aussi qu'il y a des choses que l'on ne peut pas changer. Fantasme et symptôme sont les deux expressions. Alors, pour conclure, chercher cette marque que portent les aventures du sujet pour désigner les AE, me semble être une boussole plus fiable que celle de la lettre du symptôme, pour laquelle il existe une pente à en faire l'alpha et l'oméga du témoignage de passe.